Chapitre 29. L'étau se resserrait. Pourtant, tout en se garant sur le parking de Cyberspace, Charcot échouait à comprendre la logique de l'ange. Pourquoi tardait-il à publier son manifeste? Qu'attendait-il de plus que les 700 000 connexions actuelles? Voulait-il davantage d'audience? Que le monde entier ait les yeux rivés sur son site? 700 000. Le compteur situé au bas de la page explosait de façon exponentielle. D'ici une demi-heure, on dépasserait le million. Le hashtag « Sauvons Floise et Bertrand » se propageait sur la planète des datas, transitait le long de câbles et de fibres optiques qui crachaient des zéros et des uns relayés par des milliers d'internautes et dans toutes les langues, le tout en même pas 24 heures. Combien de bits de signaux informatiques circulent par seconde sur notre planète, reliant les êtres humains les uns aux autres comme les neurones d'un même cerveau? Et combien seraient-ils en direct et devant leurs écrans à 20h34? L'onde de choc de l'implication de Laetitia Chapelier se diffusait en interne au Bastion. Des réunions d'urgence avaient lieu dans tous les services pour éviter les fuites. La spécialiste en informatique allait morfler pendant les prochaines 48 heures, voire 96 heures, car l'affaire flirtait avec le terrorisme et la SAT était sur les dents. Ni GECO ni les gars de l'antiterrorisme n'allaient la lâcher. Elle était prise dans les rouages d'une machine qui la broierait. Et Charcot ne pouvait plus rien pour elle. Il espérait juste qu'elle trouve du réconfort si sa fille s'en tirait. Franck et Lucie entrèrent dans le bâtiment de Cyberspace. À l'accueil, ils demandèrent à parler à un responsable. Les locaux étaient froids et fonctionnels. Un poste de secrétaire à l'entrée, quelques bureaux en enfilade et un open space au fond, où se détachaient une dizaine de silhouettes penchées sur des ordinateurs. Alors que l'assistante de direction allait frapper à une porte, Charcot s'approcha des abords de la grande pièce informatique. Il scruta les visages. Des jeunes qui n'avaient pas la moitié de son âge, certains avec des casques sur les oreilles. Jeans, t-shirts, baskets, une forêt d'yeux se relevèrent dans sa direction avant de se replonger dans le travail. Pas de regard suspect ni inquiet. L'ange devait avoir d'autres chats à fouetter que de rester derrière l'une de ses tables. L'homme qui les accueillit, Benoît d'Assonville, n'était autre que le cofondateur de Cyberspace. La cinquantaine, le poids des responsabilités sur un visage terne et pâle. Ils déclinèrent leur identité et il les emmena dans son bureau. « Que se passe-t-il ? »
« Nous disposons de très peu de temps, monsieur d'Assonville. Aussi nous irons droit au but, » expliqua Charcot. Plusieurs éléments d'enquête nous laissent croire que l'un de vos employés ou ex-employés est impliqué dans une grave affaire criminelle.
Lucie présenta la photo du pacemaker détruit. L'homme la prit d'une main hésitante.
Nous savons qu'il a travaillé au sein de votre entreprise sur la sécurisation du pacemaker Cardiotex il y a environ 2 ans et demi. Ce pacemaker a tué un homme mardi. Il a été déclenché à distance par un téléphone portable relié à une antenne.
Le visage de Benoît d'Assonville se ferma. « Ne me dites pas qu'il y a un rapport avec ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est malheureux enfermé dans des cylindres, cette histoire d'ange du futur.
Si, on pense qu'il s'agit du même individu, et l'idée semble vous traverser la tête à vous aussi. »
Le responsable venait de recevoir une gifle en pleine figure. Il se rencogna dans son fauteuil, déstabilisé comme un candidat à un entretien d'embauche.
Mon Dieu !
Son esprit partit ailleurs, puis revint au bout de quelques secondes vers les policiers.
Il s'appelle Fabrice Chevalier, un spécialiste en réseau et sécurité informatique. Un vrai crack. Il travaillait pour nous depuis 2013. Il a fait partie des 3 experts que nous avons placés sur l'étude du pacemaker de Cardiotex. Nous avons été contraints de le licencier il y a 2 ans pour faute grave. Voilà pourquoi son identité m'est immédiatement venue à l'esprit.
Charcot bouillonnait.
L'ange n'était plus un avatar derrière un écran. Il disposait d'un nom, de l'identité d'un être de chair et de sang.
Quel genre de faute grave ?
Dassonville secoua la tête. Il paraissait assommé. Un vrai boxeur en fin de round.
C'est compliqué à expliquer, mais pour faire simple, nous avons découvert qu'il était responsable de bugs dans les programmes informatiques qu'il étudiait ou développait pour nos gros clients, et ce depuis son arrivée dans nos effectifs. Des instructions codées qu'il dissimulait dans les programmes et qui s'exécutaient sous certaines conditions.
Son téléphone sonna. Il le mit en mode silence.
L'été 2014, quelque temps après son arrivée, le parc informatique d'une grande entreprise de fabrique de prothèses, dont nous avions étudié une partie du système d'information, est tombé en panne. Les pertes se sont chiffrées en millions d'euros. On en a beaucoup parlé dans la presse spécialisée. Des mois plus tard, c'était des séquenceurs à ADN qui faisaient défaut. La panne a failli faire couler le fabricant. Et ainsi de suite. Ça peut paraître facile, vu de l'extérieur, de dire que le problème vient de nous, mais les process informatiques sont très complexes. Les clients font appel à des dizaines d'entreprises entre la maintenance, le développement, la sécurité des réseaux, et tout s'opère dans un maillage gigantesque. Aussi, quand un problème arrive, parfois des mois, voire des années plus tard, il est très compliqué de savoir d'où il vient et de connaître le responsable. Surtout, si le responsable en question est brillant.
Ces différents problèmes venaient de chez vous, c'est ça ?
Il hésita, puis haussa les épaules.
Rien n'a été formellement prouvé, sinon nous n'existerions plus. Les dysfonctionnements informatiques existent, et existeront toujours. Un programme informatique complexe, ce sont souvent des millions de lignes. Des millions ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'alerte nous est remontée par l'un de nos ex-employés, Ethan Lupin, sans doute le plus proche collaborateur de Chevalier à l'époque.
On peut le voir ?
Lupin nous a quittés voilà 6 mois pour un poste aux États-Unis. Je n'ai plus ses coordonnées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Chevalier ne parlait à personne. Il passait des journées entières dans son coin et il quittait les lieux en dernier. Il travaillait beaucoup. Eh bien, ce qui contrebalançait son comportement asocial. Du moins, le pensait-on. Bref, Ethan avait remarqué certains propos réactionnaires chez lui, en dehors des heures de bureau, vis-à-vis de nos hommes politiques, de la technologie, du progrès de manière générale. Dès qu'il avait bu un coup, Chevalier crachait sur les clients pour lesquels il travaillait. Il les accusait de corrompre la nature humaine, d'accélérer sa déchéance à travers leurs recherches en génétique ou par l'augmentation de l'homme.
L'augmentation de l'homme ?
L'amélioration de la santé et des performances du corps humain grâce à l'informatique et aux machines. Une prothèse de bras ou un pacemaker, c'est de l'amélioration. Tout comme les implants cochléaires ou rétiniens qui permettent à des aveugles de retrouver la vue. Au départ, il s'agit certes de guérir une pathologie, mais à l'arrivée, on a affaire à une hybridation homme-machine. Nous sommes spécialisés dans l'informatique médicale. Les entreprises qui travaillent sur ces technologies constituent le gros de notre clientèle.
Il désigna quelques plaquettes étalées sur son bureau. De belles images de processeurs, de locaux ultra-high-tech, de gens en blouse aux dents ultra-blanches. Lucie reconnut Cardiotex.
D'après Ethan, Chevalier trouvait une certaine forme de jouissance lorsqu'il apprenait que nos clients étaient confrontés à de graves problèmes informatiques. Ethan s'est mis à douter de la fiabilité de Chevalier. Il a commencé à s'intéresser à son travail au moment du problème avec les séquenceurs à ADN. Il a travaillé en toute discrétion, personne n'était au courant. Ça lui a pris d'interminables nuits blanches, mais il a fini par dénicher les lignes de code suspectes dans les parties de programme sous la responsabilité de Chevalier, des blocs cachés qui s'exécutaient à des dates précises et enrayaient le système. Des espèces de bombes à retardement, ou des chevaux de Troie, pour simplifier. Il m'en a fait part.
J'ai tout de suite convoqué Chevalier, je lui ai demandé de s'expliquer. À ce moment-là, Chevalier n'a rien dit. Il est resté d'un calme troublant, presque souriant. Je dois vous avouer que ça m'a glacé le sang. Je lui ai alors annoncé que nous allions devoir nous séparer de lui. Il n'a plus jamais touché à un ordinateur chez nous.
C'était quand exactement ?
Quelques semaines après notre analyse du pacemaker Cardiotex, en juin ou juillet 2015, dans ces eaux-là.
Il baissa les yeux et se frotta les tempes.
Je n'arrive pas à y croire. Alors ce truc de profil ADN avec le président, c'était lui aussi ?
C'est lui, l'ange du futur ? Donnez-nous ses coordonnées, s'il vous plaît.
Il leur demanda de patienter et sortit. Charcot ne tenait plus en place. L'œil rivait en permanence sur sa montre. Il n'y avait plus aucun doute. Fabrice Chevalier était l'ange du futur. Travailler chez Cyberspace avait été un moyen pour lui de commencer à corrompre le système, le détruire de l'intérieur. Après son licenciement, il avait enclenché la vitesse supérieure, le site de l'Élysée, l'empreinte digitale du président, les menaces qui s'étaient finalement transformées en actions pour arriver à un scénario à la mécanique implacable. Plus d'un an à préparer ses plans, choisir ses victimes, orchestrer les enlèvements. 5 minutes plus tard, le responsable revint avec un CV.
L'adresse indiquée sur le CV est bien celle de sa dernière fiche de paie de 2015. J'ai vérifié.
Franck s'empara de la feuille. Le curriculum datait de 2011. Ingénieur réseau. La photo de Chevalier était dans un coin, en noir et blanc. Cheveux en pétard, yeux foncés, un bouc sombre. Un physique ordinaire. La banalité, songea Charcot avec dépit. Un sourire, une intelligence, une façade, derrière laquelle se nichait le mal le plus abject. Chevalier avait aujourd'hui 27 ans. Franck se focalisa sur l'adresse Villejuif. Les policiers le remercièrent, mais avant de sortir, Franck ajouta
« Vous nous avez parlé de prothèses et d'implants, d'augmentation de l'homme. Est-ce qu'une puce RFID ou un aimant très puissant sous la peau, ça vous dit quelque chose ?»
Il réfléchit quelques instants et acquiesça.
« J'ai déjà entendu parler de ça, oui, mais je crois que l'un de mes employés est au courant. « Je me renseigne et je vous recontacte rapidement. Vous avez une carte ?»
Charcot lui en tendit une et lui demanda de le rappeler au plus vite. Ils regagnèrent leur voiture en courant. Le commandant appela Robillard et lui fournit l'identité ainsi que la date de naissance de l'ange pour une vérification d'adresse en urgence auprès des services fiscaux. Il se jeta dans sa voiture et n'attendit pas que Lucie ait claqué sa portière pour démarrer.